et de présentation du CIF. Je suis Aude Ragozin, la présidente du CIF, et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui. Vous allez faire connaissance ce matin avec toute une partie de l'équipe qui dirige le CIF. Voilà déjà à côté de moi le père Bernard Clazel, qui est le directeur, et Roselyne Dupont-Roch, que vous serez amenée à revoir régulièrement, qui a en charge toute la partie biblique du CIF. Donc, pour me présenter un petit peu, je suis mariée, je suis mère de famille, j'ai travaillé quelques années en entreprise, et ensuite j'ai suivi des études de théologie à l'Institut catholique de Paris, où je suis aujourd'hui enseignante. Et par ailleurs, je suis une ancienne du CIF, d'il y a environ une trentaine d'années. J'y suis revenue il y a 7 ans pour accompagner des groupes, et puis on m'a demandé de m'y investir un petit peu davantage l'année dernière. Ce que j'ai accepté pour vraiment une raison, c'est que je suis absolument convaincue que le CIF occupe une place à part et vraiment très précieuse dans le paysage de la formation religieuse. On va vous en dire un peu plus. Aujourd'hui, matinée de rentrée, donc, pour tous ceux qui ont franchi le pas et qui ont décidé de s'inscrire en totalité ou pour un trimestre, vous formez la 49e promotion du CIF. Mais matinée de présentation aussi, type porte ouverte, pour ceux qui sont venus juste pour voir et pour nous découvrir un peu mieux, soyez vous aussi les bienvenus. Est-ce que vous pourriez lever la main, ceux-là, voilà, 2, 3, 4, voilà. Alors, venir au CIF, c'est décider d'entrer dans une démarche d'intelligence de la foi. C'est une expression qui, à certains, donne envie, ils nous l'ont dit, mais qui peut faire peur à d'autres. Alors, le père Clazen va revenir dans un instant sur ce que ça signifie, rentrer dans une démarche d'intelligence de la foi. Vous savez que pour les laïcs, la possibilité de bénéficier de ce type de formation est relativement récente. Ça remonte aux années 60. 60-70, c'est un fruit du Concile Vatican II, dont vous entendrez parler dans les cours. Les années 60, c'est une année charnière. C'est fini le catéchisme par questions-réponses de nos grands-parents. Fini la messe en latin, où finalement, les fidèles, à laquelle les fidèles assistent, finalement, sont des sujets très, très passifs. Désormais, avec le Concile, tous les fidèles, au titre de leur baptême, sont appelés à participer activement à la liturgie, à lire la Bible, à prendre toute leur part de la mission de l'Église et, je reprends une formulation du Concile, à rendre compte de l'espérance qui est en eux. Vous voyez le tournant que ça représente, on a un peu oublié, mais pour les plus âgés d'entre vous, c'est vraiment un énorme changement. Et c'est à ce moment-là que l'Institut catholique de Paris va proposer une formation universitaire adaptée aux laïcs et à des personnes qui travaillent, débouchant sur un diplôme. Et c'est dans la foulée que va naître le CIF pour tous ceux qui ne souhaitent pas ou n'ont pas le temps d'entrer dans ce cursus qui est très long et très exigeant. Donc 1970, promotion numéro 1, et cette année, rentrée de la promotion 49. Donc vous voyez que le CIF a été un précurseur dans le domaine de la formation des laïcs, avec dès le départ une intuition majeure et sur laquelle on fonctionne toujours, c'est l'idée d'allier un cours magistral pour approfondir ses connaissances et d'autre part un groupe d'échange pour travailler ensemble, discuter, réfléchir à plusieurs et faire le lien avec sa vie, avec sa vie. Alors comment est organisé le CIF? Donc le CIF, c'est une association loi de 1901, donc une association à but non lucratif qui fonctionne essentiellement avec des bénévoles. Donc une association indépendante avec un conseil d'administration qui est composé de membres élus, mais aussi des représentants des 8 diocèses d'Île-de-France. C'est pour ça qu'on est très régulièrement, et cette semaine encore, en contact avec les évêques et avec leurs services de formation. Dans les 3 derniers mois, on a rencontré Mgr Leproux à Paris, Mgr Rouget à Nanterre, cette semaine, Mgr Delannoy dans le 93. Ils nous connaissent, certains nous envoient du monde, et vraiment, on est très en lien avec eux. Pour porter le projet du CIF au quotidien, donc un président, un directeur et un bureau de 8 personnes qui se réunit une fois par mois pour la bonne marche de l'association. Ensuite, on a une assistante, Anne Lesvenant, que vous avez rencontrée pour la plupart. Alors vraiment, c'est la bonne fée de la maison, elle pense à tout, elle veille à tout, vous serez forcément en contact avec elle et vous verrez, vous pourrez admirer sa disponibilité. Ensuite, il y a les accompagnateurs de groupe, dont vous en avez repéré quelques-uns. Donc, ils sont évidemment essentiels dans le dispositif. Il y en a 7 en première année, 7 groupes, et 5 en deuxième année. Tous ces gens dont je vous parle portent des étiquettes. Donc, facile de les repérer et n'hésitez pas à les voir si vous voulez à la pause. Ensuite, il y a les enseignants. Alors, eux sont rémunérés. Ils sont hommes, femmes, religieux, laïcs, prêtres. Ils sont choisis d'abord pour leurs compétences. C'est des gens dont c'est le métier. Ils enseignent à l'Institut catholique de Paris, au séminaire. Il y en a un qui enseigne au Bernardin. Donc c'est leur métier d'enseigner. Pour leurs compétences et aussi pour leur côté pédagogue. Ce sont des gens qui ne répugnent pas à faire de la théologie avec des gens dont l'ambition n'est pas de devenir des théologiens, mais simplement de creuser les choses. Et puis, vous avez vu, il y a un dernier groupe qui sont les anciens. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 3000 étudiants qui sont passés par le CIF. Et il y en a plusieurs centaines, quasiment 700, avec lesquels on reste en contact. Comment ? Parce qu'ils reviennent pour suivre un cours, une conférence, pour participer au module biblique qu'on propose en fin de parcours. Il y en a même qui continuent à se réunir en groupe depuis des années. Donc, ils ont trouvé un nouveau mode de vie, mais qui continuent à se voir régulièrement. Donc, très grande fidélité au CIF de tous ces gens. Très grande générosité aussi, parce que certains nous soutiennent par des dons financiers. Il y a vraiment un attachement au CIF de leur part. Et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont venus grâce à eux, parce qu'ils vous en ont parlé, justement. Alors, passons à vous. Donc, cette année, vous êtes 54 inscrits en première année et vous venez rejoindre les 42 étudiants qui attaquent leur deuxième année. Sur ces 54, il y en a 40 qui sont inscrits pour toute l'année. Ça veut dire qu'il y en a 14 qui ont choisi par prudence, je pense, de s'inscrire au premier trimestre et on espère bien les convaincre de continuer. Vous, les 14, vous êtes inscrits dans les groupes au même titre que les autres. Voilà, donc on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Les deux tiers d'entre vous sont inscrits à 14 heures. Et un tiers est inscrit au cours de 20 heures, 17. Vous êtes 43 femmes et 11 hommes. Faudra savoir les recevoir. Vous êtes un peu plus de la moitié à avoir entre 35 et 60 ans. Mais l'éventail des âges est très très large. Ça va de 24 ans à 93 ans, je la vois pas d'ailleurs, elle n'est pas là aujourd'hui, mais je peux vous dire que ce n'est pas forcément la moins jeune d'esprit. Hein. Et vous êtes 5 à avoir moins de 35 ans, alors invitez vos amis. Hein. Pour la provenance, alors, je vous ai dit, l'Île-de-France compte 8 diocèses, mais pour les trois quarts, vous venez de Paris et du 92. Hein. Beaucoup d'arrondissements différents de Paris, beaucoup de communes différentes du 92. Vous êtes 5 qui viennent du diocèse de Versailles, 78, plutôt un petit peu moins que d'habitude. 3 du 94. 94, c'est le diocèse de Créteil, département du Val-de-Marne. Villeneuve-le-Roi, Choisy-le-Roi, Saint-Mandé. Une personne qui vient du 91. Au sud de Paris. C'est loin et vraiment méritante. Hein. Le diocèse d'Évry. Et puis 2 qui viennent du 77, tout à l'est de Paris. Vous voyez le diocèse de Meaux, département de la Seine-et-Marne. Cette année, on n'a personne des diocèses de Saint-Denis et de Pontoise, mais on a 2 personnes qui viennent de Normandie et qui vont faire les allers-retours toutes les semaines. Un chapeau. Et puis, je veux accueillir tout particulièrement 2 personnes, 2 religieuses qui viennent de la congrégation des Sœurs des Campagnes, qui viennent du Togo et du Burkina Faso, qui sont arrivées en France pour étudier. Elles habitent dans leur communauté, dans le 77. Elles sont accompagnées ici par une personne de leur communauté qui va vraiment les épauler dans ce cycle d'études. Voilà, donc vous le présentez déjà, mais vous allez voir en vous côtoyant dans les groupes que vous êtes très très différents à bien des égards, du point de vue de l'âge, de la culture, du milieu de vie, mais sachez qu'il en va du même du point de vue de la foi. Certains ont baigné dedans depuis l'enfance, d'autres, je crois qu'il y en a une qui n'est pas baptisée, certains sont baptisés de fraîche date, d'autres ont laissé tomber et puis reviennent à la foi. Il y en a qui sont très engagés dans l'Église, d'autres qui se situent, pour reprendre une expression du pape François, plutôt aux périphéries. Il y en a qui ont beaucoup lu, qui ont suivi des cours, des formations déjà, et il y en a pas du tout, qui n'ont même peut-être jamais ouvert la Bible. Et vraiment, je veux vous le dire, c'est pas un problème. C'est pas un problème, bien au contraire. Parce qu'il y a quelque chose qui nous réunit tous, c'est l'envie d'approfondir, de se poser un peu pour creuser sa foi, pour soi-même, ou pour pouvoir mieux la partager autour de soi. Et tous, vous avez jugé que là, cette année, c'était le moment favorable pour le faire. Vous avez écouté ce désir d'y consacrer un petit peu plus de temps et d'énergie pour passer à une foi qui soit plus adulte, plus réfléchie, plus consciente d'elle-même. Voilà, c'est ça le point commun qui permet de travailler fructueusement ensemble au-delà de nos différences. La diversité, vous savez, vraiment, c'est pas un obstacle. L'expérience nous l'a montré mille et mille fois. C'est même un des trésors du CIF. Parce que ne pas rester dans l'entre-soi, pouvoir faire des rencontres, partager des expériences, des points de vue différents, c'est une chose qui n'est pas si courante. On est souvent dans son environnement, c'est pas toujours facile d'en sortir, et c'est vraiment une occasion d'aller plus loin, vous allez le découvrir dans les groupes. Je voudrais insister sur trois notions qui nous sont chères. La première, c'est l'accueil. Chacun ici est accueilli tel qu'il est, et donne à sa mesure. Il n'y a pas de critères à remplir, il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas d'examen à passer. Chacun suit son chemin, et c'est normal que ces chemins ne se ressemblent pas. Soyez certains d'une chose, c'est que nous avons vraiment, et on se le redisait en formant les groupes, on a vraiment beaucoup de respect et beaucoup d'admiration même pour la démarche que vous faites en vous inscrivant ici. Deuxième chose, c'est la liberté. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez, d'avoir les questions que vous avez, et vous avez le droit de les poser librement. C'est important de le dire. Bien sûr, on a besoin de repères solides. Si on veut vivre selon le Christ, on ne peut pas dire ou faire n'importe quoi au nom de la foi. Et certainement, vous allez acquérir des connaissances, remettre les choses en ordre, peut-être réasseoir un socle un peu solide. Mais l'enjeu n'est certes pas d'ingurgiter un savoir. Il est de s'approprier les choses, d'être capable d'en rendre compte, d'en parler. Et pour ça, il faut qu'elles aient du sens. D'où l'importance du débat, de la discussion. Il s'agit de se former ici, d'acquérir des outils, qui permettent de penser par soi-même, à la lumière de la foi. La foi, ce n'est pas un carcan, ce n'est pas une somme de préceptes, de commandements. On n'est pas là pour rentrer dans un moule. On n'est pas là pour être formaté. On est là pour être formé. La foi rend libre. Elle est bonne nouvelle. Appel à suivre le Christ. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça ne veut pas dire que entendre une bonne nouvelle, c'est facile. Il suffit de regarder le passé, il suffit de regarder la vie même de Jésus. La bonne nouvelle n'est pas toujours facile à entendre. Donc, elle suscite des doutes, des interrogations. C'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait légitime. On n'a pas à mettre ces doutes et ces interrogations sous le boisseau. Au contraire, là, vous avez un lieu pour pouvoir les exprimer, essayer d'avancer à travers ça. Troisième point, c'est l'échange. Parce que ce sont les autres qui nous mettent en route, qui nous soutiennent et parfois nous poussent dans nos retranchements, voire mettent nos certitudes à mal. De même que vous n'auriez jamais eu accès à Jésus-Christ sans ces croyants du passé qui ont témoigné de leur foi dans la Bible, dans le monde, sans ces gens qui un jour vous ont parlé de leur foi et peut-être ont mis un germe en vous. Voilà, et ben le CIF, c'est pas seulement un cours dans lequel on vous délivre un contenu, beaucoup plus qu'un livre. Ça, un livre pourrait le faire. C'est beaucoup plus. C'est justement un lieu où on creuse les choses dans l'échange et dans la discussion. Alors, le programme de la matinée. Alors, le père Clazen va vous faire une introduction à ce que c'est qu'un l'intelligence de la foi, pour éclairer un peu les choses. Ensuite, Roselyne va vous parler du rapport entre Bible et théologie. Ici, on n'est pas un centre d'études bibliques. Et en même temps, bien sûr, il y a une attente très importante de tout le monde de pouvoir mieux connaître la Bible. Donc, elle va nous aider à situer la place de la Bible. On ne fait pas de théologie sans Bible. Elle va vous aider à situer le rapport entre Bible et ce qu'on fait ici, à situer la place de la Bible au CIF. Ensuite, on fera 2 minutes sur le programme, une petite pause où vous pourrez vous rafraîchir. Ensuite, on vous parlera des groupes, bien mettre au clair le cadre de ces groupes, et puis vous pourrez avoir une première petite prise de contact pratique avec votre groupe. Pour ceux qui sont juste venus nous voir et qui ne sont pas dans des groupes, ça sera le moment de se rencontrer, de parler un peu plus de vos projets. Quelques données pratiques, très importantes pour la vie de tous les jours. Le site www.lecif.fr. Très important notamment pour télécharger les cours, télécharger des documents. On vous dira le moment venu comment y faire, ce n'est pas le problème aujourd'hui. 2, la bibliothèque. Sachez qu'on a quand même plus de 1000 titres ici en stock. À chaque cours, généralement, Anne fait une sélection de titres qu'elle dispose sur une table. N'hésitez pas à venir emprunter des livres. Ça se passe au premier étage, au secrétariat. Et ensuite, le livret de l'étudiant. On vous en reparlera tout à l'heure, c'est le document dans lequel sont récapitulés tout ce que vous avez besoin de savoir pour cette année. Voilà, conclusion. J'ai eu envie de conclure par la remarque d'une étudiante de l'année dernière qui m'a dit, en fait, j'ai découvert qu'on avait le droit d'être chrétien et intelligent. Comme c'était une découverte. Alors, je corrigerai un tout petit peu, parce que non seulement on a le droit, mais on a le devoir. C'est tellement dommage d'en rester à la foi du charbonnier. Voilà, c'est tout notre être, toute notre personne qui doit être mobilisée dans un chemin de foi, y compris avec notre intelligence. Et si vous aviez encore besoin d'être conforté dans la démarche que vous faites, je vous laisse avec les mots du pape François. La foi est une lumière, nous dit-il. Et puisque la foi est une lumière, elle nous invite à nous incorporer en elle, à explorer toujours davantage l'horizon qu'elle éclaire pour mieux connaître ce que nous aimons. Une lumière qui nous ouvre des horizons on doit aller explorer. Et il ne s'agit pas simplement de connaître, il s'agit d'aimer. Et il poursuit, la théologie, alors, n'est pas seulement une parole sur Dieu, mais elle est avant tout l'accueil et la recherche d'une intelligence plus profonde de la parole que Dieu nous adresse. Dieu nous parle, comment est-ce qu'on accueille cette parole ? Invitation du pape à accueillir et à rechercher une intelligence plus profonde de cette parole. Vous l'avez compris, c'est ce qu'on essaye de faire ici.
Alors, on va échanger les connexions. En attendant, donc, je suis Bernard Clazen, je suis prêtre du diocèse de Nanterre, depuis belle lurette, hein, je ne compte plus. Je suis parmi les jeunes vieux prêtres du diocèse de Nanterre. Je suis, par appétence et par formation, je suis plutôt philosophe que théologien, mais enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Puisque j'enseigne la philosophie à l'Institut catholique de Paris, au séminaire Saint-Sulpice, à Bâtir-sur-le-Roc, à l'IER, à l'ISTA. Enfin bref, je passe mon temps à enseigner et je ne suis plus curé depuis très peu de temps pour me consacrer au CIF et puis à une fonction un petit peu étrange à l'Institut catholique qui consiste à être le juge de paix. Je vous raconterai ma vie une autre fois. Et donc, je suis bien heureux de commencer avec vous cette journée. Voilà. C'est bon ? Oui, non, ça ne se vise pas. Donc, je vais vous présenter cette expression assez étrange, hein, pour l'intelligence de la foi. Si vous avez été sur le site, vous reconnaissez peut-être cette image. C'est celle du site. Et donc, je vais tenter de vous dire ce qu'est l'intelligence de la foi, ou, si vous voulez, comment s'articule, s'harmonise foi et raison. Mais tout de suite, dire que l'intelligence de la foi, ce n'est pas une foi d'intello. Mais la foi doit pouvoir arriver à être animé par toutes les dimensions de notre existence, c'est-à-dire l'existence sociale, fraternelle, l'existence sensible, spirituelle, et l'existence intellectuelle. Voici ce que je vais vous dire en une demi-heure. D'abord, on va partir de deux images, puisque je viens de dire que l'intelligence sensible était importante. Ensuite, on verra quel est le statut de l'interrogation. Et puis, je vous parlerai également des différentes dimensions de l'intelligence, ce que j'ai déjà commencé à faire, mine de rien. Ma première image, eh bien, c'est celle-ci, tout simplement, celle du fond d'écran du site du CIF. C'est Ararat, c'est le mont Ararat, c'est Artashat en Arménie. Nous pourrions croire que ce que nous allons aborder est immense, inatteignable, penser, étudier la foi. Penser Dieu, théologie, trop immense. Nous aurions raison, c'est hors d'atteinte. Mais si nous ne pouvons pas tenir par un discours intelligent ce qu'est Dieu, nous pouvons y participer à ce qu'est Dieu, en deux sens. D'abord, en nous, il y a les connexions nécessaires. Il y a en effet en vous ce désir de connaître. La foi, si vous voulez, c'est le désir de l'absolu. Cette montagne peut inspirer cette pensée. La foi nous a déjà fait grandir. Elle a déjà ébauché en nous une sorte de réponse à cette immensité. La foi, le désir de comprendre, le désir de croire, c'est une réponse à cet absolu qui semble inatteignable. Ensuite, les pentes qui montent au sommet participent du sommet. Sur les pentes que vous allez parcourir, et que nous parcourons, eh bien nous sommes déjà participants du sommet, évidemment. Vous savez bien que dans une randonnée, la patience, l'anticipation, la régularité du pas, les repères posés par d'autres, la compagnie des autres sont nécessaires. Eh bien, c'est pareil pour les études. Pareil pour les études. Donc, je reprends. Patience, anticipation, les repères posés par d'autres, la régularité du pas et la compagnie des autres. Deuxième image, c'est l'arc-boutant. Vous en voyez ici, on est à Strasbourg, c'est cette espèce de poteau de biais qui vient consolider le haut du mur en son endroit le plus faible. C'est ça un arc-boutant. C'est ce qu'on appelle de l'arc gothique ou ogival. C'est-à-dire qu'on a voulu monter. Le projet, c'était de vouloir monter. De vouloir monter vers Dieu, de vouloir monter vers la lumière, de vouloir capter cette lumière. On veut comprendre, on veut la clarté. Monter vers la compréhension, c'est le projet de l'art ogival. C'est lumineux. En fait, rien de cette fine structure sophistiquée ne tiendrait sans la masse des appuis et les arcs-boutants. Eh bien, c'est une image réciproque, c'est une image des rapports réciproques entre foi et raison. La foi est une lumière sur la route, elle éclaire par le haut, mais elle doit être étayée, sans cesse. Parfois par des appuis très lourdeaux. La vie sensible, la vie fraternelle, parfois la vie fraternelle, c'est pas très simple, n'est-ce pas? Elle doit être étayée par la raison. En gros, pour que la foi de l'Église soit habitable, il faut qu'elle puisse être pensée. C'est parfois un peu complexe, mais précisément, l'enseignement consiste à rendre accessible cette complexité. Ici, au CIF, nous nous efforçons tous. C'est complexe comme l'est le réel, après tout. C'est complexe comme le sont nos existences, après tout. Et donc, vous voyez, la raison n'est pas plus complexe que le reste de notre expérience. La foi a besoin de la raison comme la raison a besoin de la foi. Nous ne croyons pas uniquement ce que nous comprenons. Tout comme nous n'aimons pas chez autrui uniquement ce que nous comprenons de lui. Il y a toute une part de lui qui nous échappe et que nous aimons. Et ça, c'est parfaitement raisonnable. Ce ne serait pas raisonnable de n'aimer en lui que ce que j'arrive à comprendre. Voilà le rapport entre foi et raison. J'ai besoin de comprendre, mais la foi déborde la raison. Et ce débordement appelle l'intelligence et l'admiration. Voilà pour mes deux images. Voyons voir maintenant quel est le statut de l'interrogation. Vous vous posez des questions, vous avez parfois des doutes, vous avez envie de comprendre, le CIF est fait pour vous. Vous en avez assez qu'on vous empêche de réfléchir parce que, soi-disant, c'est un mystère, vous avez raison. Le mystère n'est pas un empêchement, il est un appel. Il appelle tout en vous. Votre participation active, votre intelligence, vos émotions, vos amitiés, vos expériences, expériences mystiques, expériences banales, expériences quotidiennes ou expériences exceptionnelles. Le mystère appelle tout en vous. Tout est habité de mystère, c'est-à-dire de présence ou de sens. Le mystère, appelons-le la présence de Dieu en vos vies, ne demande pas le mutisme. Tout au contraire, il veut venir à la parole. C'est ce que nous tentons de faire ici avec vous. Tenter de mener à l'énoncé ce que nous portons. Vous vous interrogez, vous avez des doutes, c'est plutôt bien. Encore faut-il distinguer. Il y a trois types de doutes. Il y a le doute sceptique. Souvent, ce sont des prétextes. C'est ce que j'appelle le doute boudeur. Celui qui dit sans cesse « oui, mais » il veut faire le malin. Celui à qui on ne la fait pas. Je vous le déconseille vraiment. Il y a le doute méthodique, celui, vous savez, de René Descartes, 17e siècle. C'est une méthode pour comprendre, un peu laborieuse, qui consiste à questionner, à interroger, penser, chercher, avec méthode. Il y a le doute abyssal, le vertige, quand ça vous prend et que ça vous abîme. Ça, je ne vous le conseille pas. Vous savez, le mec à 50 ans qui se réveille, qui a fait plein de thunes, ses gosses ont quitté la maison, il a un bon job, il n'a jamais parlé avec ses enfants, et il se demande s'il ne s'est pas planté. Doute abyssal. Je ne vous le recommande pas. Chercher, s'interroger, c'est plutôt bien. C'est ne pas s'interroger qui pose un vrai problème, même chez les chrétiens. Car Dieu nous a fait avec une intelligence. Ce n'est pas pour la mettre de côté. Tout de notre humaine condition doit être animé par la foi. Et tout de notre humaine condition doit animer la foi. Nous aussi, on est plutôt pour. Centre pour l'intelligence de la foi. Ce n'est pas le centre de l'intelligence de la foi. Hein. On n'a pas cette prétention. C'est le centre pour. On est plutôt pour. On est pour s'interroger, mais pas avec des questions prétextes. Pas avec une attitude boudeuse, mais plutôt une attitude généreuse de celui qui cherche avec résolution, comme le randonneur tout à l'heure. Bref, de ces questions qui font avancer, qui font de nous des chercheurs. Et peut-être que le mot théologie vous fait peur, ou le mot philosophie encore plus, mais il ne faut pas vous inquiéter. La théologie, c'est prétentieux de dire le mot même de théologie. Remarquez que philosophie, c'est aussi prétentieux, ça veut dire celui qui aime la sagesse. Théologie, c'est celui qui parle de Dieu. Mais quand on parle de Dieu, on se gourre toujours. Mais on va essayer. Je vous l'ai dit, quand on est sur la pente, on est déjà sur le mont Ararat. Donc essayons. Et il vaut mieux essayer, balbutier, tituber, aller à gauche, à droite, que de se taire. Et il vaut mieux se poser des questions que de ne pas s'en poser. Les études n'empêchent pas le trouble, les turbulences. Parfois même, vous aurez peut-être le sentiment d'être ébranlé dans votre foi. Ce qu'on vous a toujours dit s'effondre. Quand on étudie, vous voyez, quand on étudie la Bible, ce qu'on a toujours cru, les images qu'on a toujours fabriquées, s'effondrent. Alors on peut avoir peur, mais rassurez-vous, ici, ce qui ébranle libère. Ici, si on creuse, c'est pour nous libérer. Alors évidemment, avec un peu plus de méthode que les frères Dalton. Hein. Ils creusent quatre trous, il y a plus méthodique que ça. Mais nous, si on creuse, c'est pas pour ébranler, c'est pas pour saper, c'est pour approfondir. Nous ne creusons les questions que pour éviter les pièges. Nous ne cherchons à comprendre que pour nous libérer. Il faut nous déplacer, certes, mais pour construire, pour ouvrir et pour trouver un espace de liberté. C'est ne pas s'interroger qui emprisonne. Le but du travail, c'est bel et bien de bâtir, d'étayer, de consolider. Et au bout du compte, même si la foi peut être parfois ébranlée, en fait, nous voulons construire. Mais il faut du temps, il faut de l'aide, il faut de la méthode, il faut du travail d'équipe, il faut de la confiance. On bâtit rarement seul. C'est pourquoi vous avez bien raison d'être ici. Troisièmement, vous voyez que c'est méthodique. Troisièmement, plusieurs dimensions de la foi. Ben oui, il y a plusieurs dimensions de l'intelligence. Dans le domaine de l'intelligence, de la pensée, on peut distinguer trois modes qui sont un peu différents et complémentaires. Il y a la raison, il y a le cœur, il y a l'esprit, comme on le voit sur ce schéma. Comme on le voit sur ce schéma, les trois peuvent se recouvrir, mais pas entièrement. Ils s'informent largement les uns les autres. Et ça, c'est très important de le comprendre. On ne peut pas réduire ce qui relève de l'émotion à un concept abstrait. Et pourtant, une part de ce qui nous émeut gagne beaucoup à être éclairée par l'explication, n'est-ce pas? Je donne l'exemple de la beauté. Vous visitez une église, vous êtes saisi par la beauté. Ce sera encore mieux si quelqu'un vous guide. C'est-à-dire, l'émotion esthétique sera grandie par le fait d'y penser. L'un ne nie pas l'autre, mais les deux s'amplifient. Et donc, vous voyez, il y a le cœur, le sensible, qui vient enrichir, questionner, appeler la raison. Et la raison qui ne vient pas nier le sensible, ni contredire le sensible, mais au contraire, vérifier l'expérience sensible. Vérifier, c'est-à-dire faire vrai. Amplifier les intuitions sensibles. Qu'est-ce que l'esprit ? Jean Kilevitch dit, c'est l'âme de nos vies. C'est le souffle. Roua en hébreu, vous en entendrez parler. Si vous voulez, c'est l'homme intérieur. Qu'est-ce que la raison ? La ratio. L'image est très mauvaise. Parce que ce n'est pas uniquement une mécanique. Mais ça fait appel à des choses logiques, à une espèce de construction. Qu'est-ce que le cœur ? Ce sont les émotions, la sensibilité, l'intuition première. Ça, c'est rationnel. Ce n'est pas raisonnable. Vous voyez, j'apporte des nuances hyper importantes. Ceci est rationnel, mais c'est un excès de rationalisme, un excès de rationalité, et ça n'est pas raisonnable. Ceci est un excès d'émotion. Vous voyez, ils vont lyncher quelqu'un réputé coupable, réputé méchant. C'est un excès d'émotion. La raison pourrait apaiser les choses et pourrait véritablement les juger. Et l'émotion, donc, parfois, nous trompe. Et la seule raison, souvent, nous trompe. Et donc, les choses s'équilibrent. D'où ce deuxième schéma. Il y a un domaine dans nos existences, il y a des domaines dans nos existences qui échappent à la raison. Ne les oubliez jamais. Et pourtant, ils peuvent être pensés. Nous pouvons penser ce qui échappe à la raison seule. Par exemple, vous pouvez parfaitement penser vos expériences sensibles, vos expériences esthétiques qui échappent à la raison. Par exemple, il n'est pas rationnel d'aimer vos gosses. Et cependant, c'est parfaitement raisonnable de les aimer. Non ? Il n'est pas rationnel d'aimer, mais ce serait déraisonnable que de ne pas aimer. Voilà les rapports de la foi et de la raison. Et une chose est d'autant mieux vécue qu'elle est pensée. L'exemple de la visite guidée d'une église. Les choses sont d'autant mieux vécues qu'elles sont pensées. Mais la raison seule ne permet pas de tout penser. Il y a d'autres formes d'intelligence. Alors ça, je donne souvent cet adage de Claude Bruyère, hein, c'est, pour moi c'est une leçon. Ce n'est pas exercer toute la raison de ne s'en tenir qu'à la raison. C'est-à-dire les gens rationalistes ne sont pas raisonnables, s'ils ne sont pas sensibles. Alors, quelques exemples. Il y a une intelligence du sensible. On pourrait même dire qu'il y a une intelligence de la main. Vous savez, un artisan, sa main est intelligente. Vous allez dire, mais non, c'est juste une question d'apprentissage. Mais bien sûr que non. Tous ceux qui font de la cuisine parmi vous, faute de faire de la menuiserie, le savent. Ce n'est pas uniquement une question d'habitude. Il y a une véritable intelligence du sensible, même une intelligence du doigté. Il y a une extraordinaire intelligence dans ce geste. Il y a même, on pourrait dire, une intelligence démultipliée. Ce geste est beau, mais il y a une espèce de complicité entre l'homme et l'animal, une complicité amicale qui est faite d'intelligence. Ce cheval sait qu'il est en train de faire quelque chose de beau, et il en éprouve du plaisir. Et l'homme intelligent, qui connaît son cheval, sait que le cheval éprouve du plaisir. Éprouve du plaisir à faire quelque chose de beau. Eh bien ça, c'est une forme d'intelligence. Une intelligence du sensible. Les ressentis nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes, sur le monde. ce que nous éprouvons, ce que nous ressentons, éveille l'esprit, dirait Jean Kelevitch. Et l'esprit réclame l'intelligence. De même, la pitié. La pitié, contrairement à ce que disait Nietzsche, qui trouvait que c'était un geste imbécile, pour Cato dégénéré, la pitié est très intelligente. Pourquoi ? Parce que elle vous oblige, du point de vue de la sensibilité, à faire qu'un autre soit tout d'un coup plus important que vous-même. Ben ça, comme ouverture d'esprit, même Kant a du mal, qui est très intelligent, qui a écrit plein de livres très savants. La pitié, immédiatement, vous rend intelligent. Elle vous rend intelligible l'existence qui s'impose d'autrui. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'amour, qui est une évidence, il est complètement hors de la raison critique, et cependant, il est parfaitement déraisonnable de ne pas aimer. Voilà ce que je pouvais dire sur les rapports de la foi et de la raison. Vous voyez, c'est dans cette aventure qu'on va se lancer. Un petit mot sur le CIF, vous avez vu où nous sommes. La foi est évidemment pour nous centrale, elle n'est pas qu'une affaire d'affiche, elle n'est pas qu'une affaire de façade, elle est peut-être quelque chose qui nous habite et qui nous anime, en tout cas quelque chose que nous voulons comprendre, lire. On veut voir comment ça marche. Donc vous avez raison de venir au CIF. Le CIF s'appuie sur, on vous l'a déjà dit, sur deux éléments qui sont les cours, c'est-à-dire l'enseignement, et le groupe. Mais même dans les cours, il y a quelque chose du groupe. Parce qu'en effet, nous pensons ensemble. Et tous vos enseignants ici sont très attentifs à ressentir l'intelligence du groupe. C'est-à-dire, ils s'adapteront à ce qu'ils sentent de votre intelligence. Autrement dit, il y a une espèce d'intelligence participée. Donc vous voyez, le groupe, pour nous, compte beaucoup. Il y a une communauté que nous formons, et les enseignants, pareil. Non pas une communauté entre eux, mais une communauté entre eux, mais une communauté avec vous. C'est l'intelligence partagée, quoi. Une intelligence sensible, enfin vous m'avez compris. Plus plusieurs choses, donc la Bible, on va vous en parler dans un moment, plus un certain nombre d'événements que nous vous proposerons, par exemple des rencontres interreligieuses, des grandes conférences où nous appelons tous les anciens, plus quelques petites sessions d'histoire. Donc voilà, c'est un peu ça le CIF, vous verrez ça petit à petit dans les détails. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à.
Voilà, et bien merci Bernard pour cette belle promenade dans les ramifications de la raison et celle encore plus haute de la foi. Alors moi, plus brièvement, et sans photo, mais vous êtes au boulot, alors c'est pas la peine. Je vais juste souligner un petit paradoxe dans tout ce qui a été dit. Parce que vous venez d'entendre cette présentation du parcours que vous allez faire, hein, dans quoi vous allez finalement entrer, qui évidemment n'aura pas de fin. Et en même temps, la semaine prochaine, nous allons commencer par une session biblique. Alors, c'est beaucoup plus, j'allais dire, restreint, ou en tout cas, c'est autre chose. Nous commençons par la Bible, et la Bible va être présente, en fait, tout au long de votre parcours, qu'il soit de un trimestre, d'un an ou de deux ans. Et c'est heureux parce qu'un certain nombre d'entre vous, en s'inscrivant, ont dit « Mais attendez, moi, je veux de la Bible. Moi, je suis amoureux de l'Ancien Testament, je veux en entendre parler. » Eh bien, vous en entendrez parler. Et je voudrais essayer rapidement de préciser un peu ou de comprendre un peu mieux, on a vu que ça passait par diverses voies, la place de la Bible, son importance dans ce parcours de théologie. Alors, on sait que le Concile Vatican II a dit « la Bible, c'est l'âme de la théologie ». Oui, mais l'âme, elle est où ? On dit aussi très souvent, et c'est ce qu'on dit dans la lecture liturgique le dimanche, après avoir lu un passage de la Bible, « parole de Dieu ». La Bible, c'est parole de Dieu. Oui. Moi, je serais plus prudente. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un peu rapide de dire ça. Il faut savoir ce que ça signifie. Dieu parle. Dieu parle où ? Où ? Où l'entend-on ? Alors, je vais commencer par une proposition et puis un petit peu ensuite l'étayer. Il me semble que ces moments bibliques et cette présence de la Bible dans vos cours Ça va servir à ancrer votre parcours, votre réflexion, tout ce travail de la raison, du sensible au plus intelligible. Ça va l'ancrer dans l'histoire et dans la vie humaine. Je m'explique. La Bible va nous ramener de la contemplation des idées ou de choses parfois un peu abstraites, ou même de la contemplation des images, à, je dirais, au terreau et parfois à la boue. Alors, on n'est plus sur le mont Ararat, on est en bas, hein, dans la plaine, avec de la boue jusqu'aux chevilles, et puis le chemin, il est rude. Voilà, la Bible, elle nous ramène à ça, à la difficulté, aux contradictions, mais aussi aux aspirations et aux grandeurs des êtres humains dans leur variété à travers l'histoire, et qui sont aussi vos difficultés à vous, votre boue à vous, et puis votre grandeur et vos aspirations. Et au fond, la Bible, elle nous offre un écho amplifié, démultiplié et transformant de ce qui nous travaille et de ce qui nous interroge. Alors, je précise. Je voudrais montrer que la Bible est au point de départ de la théologie et que la théologie doit y revenir sans cesse. Je pense que mes collègues sont convaincus. La Bible, j'ai dit, parole de Dieu, je précise, et je vous le dirai plus largement la semaine prochaine. Moi, je dirais plutôt, ce sont des paroles d'hommes, et vous aussi, vous allez parler, d'hommes à la découverte et à l'écoute de Dieu, dit autrement, des paroles qui vont transmettre l'écho de Dieu, voilà, c'est pas une parole de Dieu, c'est l'écho, dans l'histoire et dans la vie des hommes. Plus simplement, je descends chaque fois un peu plus profondément, la Bible, c'est d'abord l'histoire d'un peuple, ou plus exactement, un peuple qui raconte son histoire à travers des récits et des œuvres littéraires variées qui sont les livres bibliques. Un petit peuple du passé, et vous allez me dire, mais il y en a des milliers de petits peuples du passé et du présent. Pourquoi aller choisir ce minuscule petit peuple d'Israël dont on verra qu'il a passé son temps à se faire écraser, à se faire occuper, mangé par les grandes puissances autour? Oui, mais bon, on va lire son histoire à lui. Pourquoi? Eh bien, parce que la foi chrétienne sur laquelle nous enquêtons, hein, c'est ça aussi la démarche, c'est d'enquêter sur cette foi. Elle vient de ce peuple, et parce que celui que les chrétiens considèrent comme leur Seigneur, au centre de la foi, eh bien, ce Jésus fait partie de ce peuple. C'est un Juif faisant partie du peuple juif. Il s'inscrit dans cette histoire qui est la sienne et qui devient donc un peu la nôtre. L'histoire d'un petit peuple qui a osé affirmer, en remontant les siècles, en regardant derrière lui, qu'il avait rencontré quelqu'un qui était là, qui l'attendait, et ce quelqu'un, il l'appelle Dieu. Voilà. Dieu était là, dit Jacob, après le songe qu'il a fait la nuit, où le ciel s'est ouvert, une échelle qui monte au ciel et qui descend. Dieu était là, et moi, je ne le savais pas. Et au fond, c'est ça que la Bible nous permet de faire, mais c'est aussi ça que ce parcours d'intelligence de la foi va vous permettre de faire. Oui, Dieu était là, et moi, je ne le savais pas. Alors, la Bible nous fait découvrir Dieu, et cette découverte de Dieu, il faut toujours se souvenir que nous la devons au judaïsme. Le judaïsme nous a offert, au fond, cette idée de Dieu. Une découverte compliquée, quand vous allez vous plonger dans la Bible, d'abord dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu n'est pas simple. On a beaucoup dit le Dieu vengeur de l'Ancien Testament. Mais oui, il y a un Dieu vengeur, il y a un Dieu qui se bat aux côtés d'Israël et puis qui tabasse ses ennemis. Il y a un Dieu qui punit, il y a un Dieu qui tonne, qui se heurte d'ailleurs aux forces de la nature. Et puis, le même Dieu, tout d'un coup, il est un Dieu plein de douceur, un Dieu père, un Dieu mère, hein, qui n'oublie pas, qui peut pas oublier son enfant, un Dieu amoureux qui court après l'infidèle qui fiche le camp, hein, et qui court pour la rattraper, un Dieu qui inscrit son peuple sur la paume de ses mains, voilà, un Dieu quelque part éblouissant, en tout cas, toujours un Dieu avec nous, un Dieu engagé dans l'aventure humaine. Alors, j'ai dit Dieu, la Bible dit Dieu, et c'est là, évidemment, mais ça, vous l'avez entendu, que commence la théologie. Un grand mot, peut-être, mais ça joue sur... C'est une parole sur Dieu, on va essayer de dire Dieu, à l'écoute de la façon dont Dieu nous parle. Lui aussi, il parle. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu dit son nom. Et ce nom reste en partie impénétrable, vous le savez. On a même du mal à traduire. Quand Dieu révèle son nom à Moïse, on a longtemps traduit, il dit quelque chose comme « Je suis ce que je suis ». Allez savoir. Ça tourne. Il s'enferme et c'est la forteresse. On n'y entre pas. En fait, on s'aperçoit qu'il ne faut pas traduire comme ça. Il faut traduire « Je suis ce que je serai ». Ce n'est pas circulaire. C'est ouvert sur l'avenir. Et quel est l'avenir de Dieu, du Dieu éternel ? Ben, l'avenir de Dieu, c'est vous, messieurs, dames. L'avenir de Dieu, c'est « Je serai avec vous et vous, vous aurez à me découvrir, je vous accompagnerai dans les aléas de l'existence et c'est vous qui aurez à parler de moi. » Alors, la Bible, c'est ce premier ensemble, cette collection étonnante d'expériences humaines, religieuses, de gens qui ont essayé de dire Dieu et qui y sont plus ou moins bien arrivés, plutôt mal que bien, plutôt bien que mal. En tout cas, Bernard l'a dit tout à l'heure, jamais la Bible prétend ne saisir la totalité de ce qu'est Dieu. Quand Dieu dit son nom, c'est à vous de jouer. Si vous avez compris ce qu'est Dieu, dit saint Augustin, alors, excusez-moi, vous êtes trompé, ce n'était pas Dieu. Voilà. Un Dieu qui parle, dont il va falloir essayer d'entendre l'écho, et les premiers échos sont dans la Bible. Un Dieu qui s'approche de nous jusqu'à, les chrétiens le croient, se faire chair. Et un Dieu que nous allons aussi retrouver dans l'expérience inouïe que font les disciples de Jésus, et on passe au Nouveau Testament, que font ceux qui l'ont accompagné dans sa mort terrible et dans cet événement sans précédent. Celui qu'ils avaient vu mourir, ils l'ont rencontré vivant. Et là encore, vous n'avez pas de catéchisme, pas de vérité en quelques phrases. Le Nouveau Testament est divers. Il y a 4 évangiles, il y a les Actes des Apôtres, il y a des lettres, il y a une Apocalypse, il y a toute une série de titres donnés à Jésus. Alors il est quoi ? Prophète ? Fils de l'homme ? C'est comme ça qu'il se présente. Fils de Dieu ? Seigneur ? Sauveur ? Voilà, toute une série de titres, et il y en a d'autres. Il y a des débats dans le Nouveau Testament. Ça nous apprend que les premiers groupes chrétiens n'avaient pas de credo tout fait. Ils ont dû construire leur foi, l'inventer d'une certaine façon, en la vivant à la fois dans la célébration du ressuscité, dans le partage quotidien avec les frères, c'est pas le plus simple, on l'a dit aussi, et dans la méditation, la réflexion qu'ils ont menée pour arriver progressivement à dire les choses. Et il a fallu des décennies de travail théologique, ça commence là, le travail théologique, dans le Nouveau Testament, aussi dans l'Ancien, pour que se formulent et s'échangent des confessions de foi, des credos. Donc le Nouveau Testament engage cette partie de la théologie que nous appelons la christologie. On va essayer de voir comment ont répondu à travers les siècles nos prédécesseurs à la question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Ils ont répondu de façon diverse et variée, et au fond, le CIF est là pour vous renvoyer la question. Et vous, c'est à vous maintenant de dire. Voilà, nous ne venons pas seulement à l'Écriture pour lui poser nos questions, je dirais même jamais. En fait, c'est l'Écriture qui va nous en poser et nous mettre en chemin pour faire de la théologie, de la christologie. Vous voyez que le lien est bien présent. Alors, je dis que la théologie naît de l'Écriture, qu'elle va y retourner sans cesse. Il va falloir se retremper sans cesse dans l'Ancien Testament, dans les Évangiles, pour se remettre toujours en chemin et avancer. On va toujours essayer de passer de l'effort pour dire qui est ce Jésus, le Christ, Fils de Dieu, et qu'est-ce qu'il nous révèle de Dieu, en revenant sans cesse à l'étonnante figure concrète de la vie de Jésus, de ce qu'on a appelé son style, qui nous conduit à nouveau à nous interroger, mais enfin, qui est-il ? Voilà. Alors, le parcours du CIF est un parcours théologique qui va déployer les différents aspects de la foi et de la vie chrétienne à l'aide de la raison. Et il ne peut commencer et sans cesse être, j'allais dire, aiguillonné que par ce retour à l'Écriture. Vous en aurez tout au cours du CIF, des passages par l'Écriture, une session la semaine prochaine, introduction à la lecture de l'Ancien Testament, on fera ce qu'on pourra hein, en une journée, une session au début janvier, Introduction à la lecture du Nouveau Testament. Tous vos cours, ils feront allusion. Alors, vous venez toujours au cours avec une petite Bible. Petite, parce que les grosses, c'est lourd à porter. Mais il y en a des toutes petites. On peut les glisser dans sa poche. Et puis, dans les groupes, vous aurez des textes à lire. Vous aurez un peu de travail sur les textes bibliques, certaines fois. Et puis, vous avez des textes de théologiens qui, eux-mêmes, renvoient à la Bible. Les textes de théologiens, c'est truffé de références. Alors, c'est un peu énervant. Mais si chaque fois vous allez voir pourquoi il renvoie à la Bible, alors votre texte de théologien, il va prendre une autre allure. Il va vous éclairer autrement. Voilà, et ensuite il y aura des groupes bibliques, mais ça sera une autre histoire. Je crois que je peux vous libérer.
Alors, on va faire la pause dans 10 minutes, 5 minutes même. Je vais juste avant vous parler des cours qui vous attendent. Donc, vous avez compris que... Ah ouais. Voilà. Vous avez compris que tous ces grands aspects, toutes ces grandes dimensions du mystère de la foi, elles se déploient au fil de plusieurs trimestres. Le parcours complet, il se fait en 2 ans. C'est-à-dire en 6 trimestres, et chaque trimestre, grosso modo, représente 10 cours. Le premier trimestre, il y en a un petit peu moins, parce que c'est cette journée qu'on a mis dedans, 10 cours et 3 rencontres de groupe. Donc, 2 minutes pour vous dire ce que vous allez faire cette année. Le premier trimestre, c'est un cours qui est fait par David Sandres. David Sandres est un nouvel enseignant, donc on va vraiment découvrir son cours avec lui. Autant d'enseignants, autant de cours différents, on ne part pas des mêmes perspectives, on ne va pas mettre les mêmes insistances. David Sandres est prêtre, il est vicaire à Saint-Jacques-du-Haut-Pas dans le 5e. Il est enseignant au Bernardin et il est enseignant à la Cato aussi. Son cours, c'est un cours sur la révélation, un mot un petit peu technique, mais on comprend derrière ce qui se dit. Ça va nous parler d'un Dieu qui se révèle, un Dieu qui se révèle, qui se manifeste à l'homme, qui se fait connaître, un Dieu dont on découvre que, bien sûr, il est le tout autre. C'est pour ça qu'on appelle ça le mystère de la foi aussi. Il est le tout autre, il est insaisissable, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a rien à en dire et qu'on ne doit pas faire cet effort de rentrer dans le mystère qui est comme un appel, comme disait Bernard. D'accord, donc un Dieu qui se révèle, qui veut se faire tout autre, mais qui veut se faire proche. Alors comment est-ce qu'il se manifeste à l'homme? Comment est-ce qu'il lui parle? Où? On a compris, à l'intérieur d'un peuple, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'il se révèle à nous? Voilà, c'est toutes ces... Comment est-ce qu'on le sait? C'est toutes ces questions qui vont être agitées dans le cours. Pour nous acheminer à quelque chose, dit David Sandres, c'est que le christianisme, contrairement à ce qu'on entend parfois, n'est pas une religion du livre. Premier cours, avec, vous avez vu, la journée de Roselyne, samedi prochain, sur l'Ancien Testament. Deuxième cours, c'est le cours du Père Bernard. Donc, à un moment donné, dans ce Dieu qui se révèle, entre dans le monde par son Fils, Jésus-Christ. Et là, dans ce Fils, la plénitude de la révélation est atteinte. C'est-à-dire que quand on regarde le Christ, on connaît le Père. Qui me voit le Père, dit Jésus. Donc, ce cours va être consacré au Christ, sa vie, son enseignement, ses paroles et ses gestes, évidemment sa mort et sa résurrection. Et à travers lui, c'est vraiment l'immense amour du Père pour chacun de nous qui se dit. C'est un cours, vous avez vu comment a fait déjà le Père Bernard, qui va vraiment trouver sa source, si j'ai bien compris, dans l'iconographie, sacrée, chrétienne ou pas, mais qui est une expression de... un point de départ de l'expression de notre foi. Avec, à nouveau, vous voyez, la journée de Roselyne. Et puis au troisième trimestre, donc c'est le cours d'anthropologie. Anthropologie, discours sur Dieu, sur l'homme. Théologie, discours sur l'homme, anthropologie, discours sur Dieu. Avec Manon Desclosières. Manon est laïque, elle est enseignante à l'Institut catholique de Paris, elle est directrice adjointe du cycle C. C'est le cycle de formation universitaire pour les laïcs. C'est la dernière année qu'elle donne ce cours ici. Alors, pourquoi, après avoir parlé d'un Dieu qui se révèle, en plénitude en Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'on arrive à l'homme ? Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, comment ne nous dirait-il pas quelque chose de ce qu'est l'homme ? L'homme, mystère de Dieu, mais mystère de l'homme. Réfléchissez à tous ceux qui, toutes ces expressions, l'homme passe l'homme, l'homme a mystère pour lui-même. Eh bien voilà, dans la foi, Jésus-Christ nous dit par sa vie, parce qu'il est quelque chose profondément sur l'homme. À un moment où il y a tellement de questions qui se posent sur l'homme, les questions de la science, de son avenir, de sa place dans le cosmos. Donc vous voyez, un cours qui, j'espère, vous donnera des repères. Et puis en seconde année, donc ce trimestre-là, il n'y aura pas de journée de Roselyne, mais c'est le trimestre où il y aura la journée interreligieuse, on en reparlera. Et puis en deuxième année, donc là je vais vite, un cours sur l'Église avec Anne Righini, qui est laïque, qui enseigne en ligne à la Cato. Ensuite avec Frère Isaiah, un cours sur les sacrements, un sens à retrouver. Isaiah est moine cistercien de l'abbaye de Lérins, très attaché au CIF, il donne ce cours depuis 5 ans à peu près. Et puis ensuite, le dernier cours qui boucle le parcours, on est plus en théologie morale, en éthique. Donc ce qui est mobilisé, c'est la question de l'action. Comment agir aujourd'hui en chrétien dans le monde ? Vous savez que ce n'est pas facile, que ça suppose vraiment un discernement. Comment la lumière de la foi peut-elle nous éclairer ? Avec le père Laurent Lemoine, qui est prêtre. Et ça sera un cours avec une deuxième voix. Sur le programme, vous avez peut-être vu que c'était Elena Lacida. Malheureusement, elle est partie en année sabbatique. Et donc, on va trouver un autre intervenant pour la deuxième partie du cours. Voilà, vous savez tout. Petite pause jusqu'à 11h10, un petit quart d'heure. Alors, j'espère que ceux qui sont venus juste pour s'informer voient les choses un petit peu plus clairement. On est à leur disposition maintenant, avec Roselyne en particulier et Bernard pour répondre à vos questions ou discuter avec vous si vous voulez. Pour les autres, vous pouvez aller vous rafraîchir et ensuite on va se mettre en petite réunion. Et ensuite on revient comme on est et on vous présentera les groupes. Voilà. Vous pouvez éventuellement garder vos gobelets, pas changer à chaque fois. Voilà.
Voilà. C'est là.